Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Présence pour une nouvelle interview avec l'un des musiciens programmés lors de cette 19e édition du Festival de Rocamadour. Si vous suivez cette manifestation depuis longtemps, vous aurez remarqué que le récital de piano à la Basilique Saint-Sauveur est une des traditions dans sa programmation. Cette année, il a lieu ce vendredi 23 août à 21h et il va être donné par David Frey. Le pianiste tarbais a accepté de répondre à mes questions avant son concert, ce dont je le remercie. Bonjour David Frey, heureux de vous retrouver sur notre antenne parce que ce n'est pas la première fois que nous avons l'occasion de converser tous les deux.
En effet, bonjour à vous.
C'est pas une première sur Radio Présence, en revanche, c'est une première pour vous au Festival de Rocamadour. Est-ce que vous allez aussi découvrir le site et la Basilique Saint-Sauveur pour ce récital, ou est-ce que vous êtes déjà venu ici ?
Non, je vous confirme que c'est une première à la fois en tant que musicien, mais même en tant que visiteur, tout simplement. Et j'ai beaucoup entendu parler du village de Rocamadour, que j'ai vu en photo, etc. Et donc je sais que c'est un site particulièrement beau et inspirant, et donc je vais le découvrir à l'occasion de ce concert.
Alors je sais que vous êtes très attaché au patrimoine et à des lieux religieux de votre Bigorre natale. Est-ce que vous êtes de manière générale sensible à l'ambiance du sacré, notamment bien sûr lorsque vous vous produisez en concert ?
Oui, énormément. C'est vrai que si vous regardez ma discographie, je pense que pratiquement tous mes disques ont été enregistrés dans une église en fait. Et donc c'est lié effectivement à des aspects acoustiques et qui je trouve sont profitables aux œuvres que je devais enregistrer. Mais c'est aussi lié effectivement au fait que ce sont des lieux à la fois apaisants, inspirants, et qui ont une charge spirituelle à laquelle je suis effectivement très sensible.
Nous allons parler de Jean-Sébastien Bach et de ses variations Goldberg tout à l'heure, puisque le récital que vous donnez à la Basilique Saint-Sauveur est entièrement dédié à ce sommet de la musique pour clavier. Mais avant cela, je voudrais qu'on évoque quelqu'un qui a joué un rôle très important dans votre formation musicale et dans le lancement de votre carrière, c'est Jacques Rouvier. Vous avez été son élève au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et je ne crois pas me tromper en disant que ce maître, ce grand enseignant, compte encore beaucoup pour vous aujourd'hui et que vous êtes resté très proche de lui.
Oui, en effet, on a un rapport qui est proche depuis son élève. Moi, je l'ai rencontré pour la première fois, j'avais 13 ans, lors d'un stage dans les Alpes. Et c'est vrai que depuis, c'est quelqu'un qui me sert aussi de guide. Alors, c'est vrai que ces dernières années, j'ai peut-être moins joué d'œuvres comme je le faisais à une époque, etc. Mais je sais que si j'ai besoin d'un conseil, c'est vers lui que je me tournerai, parce qu'il me connaît, il comprend les enjeux qui sont les miens en termes de qualité et aussi des défauts. Et donc, je pense qu'il est le mieux à même de m'aiguiller ou de me remettre un peu d'aplomb si le besoin s'en fait sentir.
Est-ce que ça a été la rencontre avec Rouvier, la rencontre la plus décisive pour votre avenir de musicien ?
Ça, je le pense, oui, sans aucun doute, parce que c'est vrai que j'étais pas du tout construit. Quand je l'ai rencontré, j'avais énormément de choses à apprendre et j'avais beaucoup de choses qui me manquaient, et en particulier qui me manquaient pour aborder le répertoire que j'avais déjà en tête comme étant le répertoire qui m'intéressait le plus, c'était le répertoire germanique, et qui est sans doute le répertoire le plus exigeant. Et si je n'avais pas rencontré Jacques Rouvier, ce professeur, je pense que j'aurais été absolument incapable d'aborder ses œuvres et de pouvoir faire un travail d'une certaine qualité, disons, j'espère, sur ce répertoire-là, sur Bach, Mozart, Beethoven. C'est un répertoire avec lequel vous ne pouvez pas tricher, qui est d'une exigence, encore une fois, vraiment, c'est la meilleure école, d'ailleurs. C'est là qu'on voit un vrai musicien, sur ce répertoire-là. Mais en même temps, c'est aussi ça qui rend ce répertoire particulièrement intimidant, parfois, et difficile d'accès. Donc c'est vrai que lui m'a donné les outils. C'était beaucoup une histoire de rigueur, mais aussi de respect, tout simplement, de la partition du texte, qui était fondamentale dans sa classe.
Qu'est-ce qui vous a apporté le plus et qui vous sert encore aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il y a eu sans doute au départ, peut-être en premier, tout simplement la confiance en vous.
Oh, la confiance en moi, ça, je ne sais pas si ça s'apprend, à vrai dire. Et puis, la confiance en soi, c'est une des choses les plus compliquées, ça, je pense. Là, vous abordez une question qui n'est pas une question musicale, d'ailleurs, qui est une question
humaine.
Extra-musicale, vraiment humaine. Et effectivement, le fait d'être bien entouré, aussi bien humainement que professionnellement, aussi donc effectivement avec un professeur en qui vous avez confiance, qui vous connaît. Ça, ce sont des choses qui participent, disons, à faire de vous quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'assurance ou qui se sent un peu mieux guidé et accompagné. Voilà, ça c'est très important. Mais après, il y a toute une partie où là, c'est vraiment un travail qu'on doit faire avec soi-même, sur soi-même, pour essayer de comprendre pourquoi éventuellement, effectivement, on peut avoir certaines craintes ou certaines fragilités, et là qui ne sont pas liées à la musique elle-même, qui sont des fragilités éventuelles liées vraiment à des aspects de notre personnalité propre. Après, avec le recul, je pense de plus en plus que l'important, c'est d'accepter aussi ses faiblesses. Et plus on les accepte, moins on est peut-être à leur merci. C'est un peu l'impression que j'ai, moi, avec le recul. Je pense qu'il faut aussi faut accepter que c'est un métier difficile, dans lequel on peut avoir des moments meilleurs que d'autres. Ça, je pense que c'était quelque chose que j'avais du mal à accepter à une époque.
Alors, il y a une chose aussi qui me semblait concernant Jacques Rouvier, c'est qu'il vous a aussi inoculé, si on peut dire, la passion de transmettre. Vous aimez diriger des masterclass, vous proposez des leçons dédiées à l'interprétation d'œuvres sur votre chaîne YouTube. Est-ce qu'il ne vous a pas aussi transmis cette passion de transmettre, justement ?
Alors ça, je ne sais pas, parce que l'enseignement, moi, c'est pas forcément, à la base, c'est pas forcément une vocation. Lui, il a vraiment la vocation de l'enseignement, d'une manière très claire. Moi, je ne sais pas au départ si c'était vraiment quelque chose de présent, mais je dois reconnaître que à l'occasion de l'offrande musicale, justement, vous y faites allusion, il y a une journée chaque année de cours publics pour quelques étudiants, et c'est vrai que ça m'intéresse de le faire, et peut-être de plus en plus, ça m'intéresse d'essayer de d'ouvrir certaines portes à des jeunes musiciens, et puis quelque part, ça me sert aussi à moi, ça m'oblige parfois à pousser un peu plus loin certaines réflexions, ou disons à devenir à un stade conscient des choses qui n'étaient pas forcément conscientes dans ma manière de travailler sur la musique. Donc c'est vraiment une chose effectivement que je trouve intéressant, mais de la même manière que là, par exemple, je suis en train de travailler avec une amie qui est chanteuse, et le fait de répéter avec elle, ce sont des choses de... Quand vous êtes obligé de sortir de vous-même pour essayer de communiquer et de faire comprendre ce que vous avez en tête et pourquoi vous l'avez en tête et éventuellement comment le réaliser, etc., ce sont toujours des choses profitables. Donc de ce point de vue-là, c'est valable pour des masterclass, mais c'est valable aussi même en répétition, parfois.
Le lien avec Jacques Rouvier est resté tellement fort pour vous que vous avez enregistré plusieurs CD avec lui, notamment un à quatre mains consacré à Schubert, ou alors il y a eu ce fameux CD des concertos pour deux, trois et quatre claviers de Jean-Sébastien Bach avec Jacques Rouvier, mais aussi avec vos amis Emmanuel Christian et Audrey Vigoureux, eux-mêmes anciens élèves de Jacques Rouvier. Bach est certainement votre compositeur de prédilection, on va en parler dans quelques instants, mais il y en a un autre qui vous est très cher aussi, c'est Franz Schubert, dont vous avez enregistré de nombreuses pièces pour piano. Ça va nous permettre de vous écouter jouer à quatre mains avec Jacques Rouvier, la fantaisie en fa mineur, opus posthume 103 D940 du grand compositeur viennois. Thank you. La fantaisie en fa mineur à quatre mains des 940 de Franz Schubert, joué par David Frey et Jacques Rouvier. On en arrive donc à un autre grand compositeur germanique, Jean-Sébastien Bach. Et je me demandais à quand remontait votre passion pour son œuvre, qui certes est partagée par beaucoup de musiciens. Est-ce qu'elle vous a été transmise de manière familiale? Je crois que votre mère est professeure d'allemand, c'est peut-être une piste.
Oui, d'allemand, professeur de philosophie. Je ne suis pas sûr que ça vienne d'eux, à vrai dire. Ce qui vient d'eux, c'est peut-être ce tropisme un peu pour la culture germanique, ça c'est sûrement le cas. Après, sur Bach, ça a été vraiment... je pense que quand vous aimez profondément une œuvre ou un compositeur ou quelque chose, c'est quand même une rencontre entre lui et vous. Hein. Donc ça a été quelque chose, une forme de révélation, on va dire, que j'ai eue quand j'écoutais les œuvres de Bach quand j'étais enfant, qui a été confirmée quand j'ai découvert la Passion selon saint Matthieu, lorsque j'avais 10 ou 11 ans. Et... voilà, mais après, c'était pas forcément un compositeur que je jouais quand j'étais très jeune, parce qu'il était sûrement un peu compliqué. On est un peu obligé au départ de faire des préludes, des fugues, des choses comme ça, mais enfin, c'était comme beaucoup de musiciens, je crois, au départ, Bach, je le voyais comme un compositeur un peu didactique, vous voyez, comme un compositeur un peu obligatoire pour étudier des fugues, ce genre de choses. Il a fallu peut-être un peu de temps. Pas beaucoup de temps, malgré tout, mais un peu de temps quand même pour que j'en comprenne la portée expressive réellement, vous voyez, et pour que je me débarrasse, que j'oublie l'aspect un peu didactique qu'on attribue à ses œuvres dans les conservatoires.
Vous êtes venu à Bach d'abord par sa musique sacrée, vous avez évoqué ses passions, donc ses oratorios, la Passion selon saint Jean, la Passion selon saint Matthieu. Vous avez découvert sa musique pour clavier un peu plus tard, c'est-à-dire, comme vous le disiez, par la force des choses, parce que vous étudiez le piano.
Oui, effectivement. Et puis bon, comme beaucoup de gens, j'avais quelques enregistrements de Glenn Gould, les variations Goldberg, justement, des choses comme ça. Mais même Glenn Gould, qui était évidemment génial dans son genre, mais il y avait quelque chose d'un peu, parfois d'un peu mécanique dans cette manière-là d'aborder Bach, qui par la suite ne m'a pas semblé forcément être la voie que je voulais emprunter moi-même. Mais j'ai connu à peu près concomitamment les œuvres pour clavier et les œuvres plus vocales. Peut-être ce que j'ai découvert un peu plus tard, c'est les cantates, par exemple. Bon, mais enfin, il y en a tellement, il y en a encore certaines que je connais pas.
Il y en a plus de 200.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, je prétends pas connaître les 200, mais en général, de toute façon, la musique vocale, qu'elle soit de Bach ou d'un autre compositeur, est venue au fil de l'adolescence et est devenue de plus en plus importante jusqu'à être, je pense, l'inspiration principale de ma manière de jouer.
Un de vos premiers enregistrements, c'était justement un CD Bach Boulez. Il y a eu ensuite d'autres disques dédiés aux concertos pour piano et aux sonates pour piano et violon avec votre ami Renaud Capuçon. Mais bizarrement, vous avez attendu longtemps avant de jouer en concert et d'enregistrer les variations Goldberg en 2021. Pourquoi cette longue attente? Il fallait atteindre une certaine maturité pour s'attaquer à cette œuvre immense?
Ah oui, alors là vraiment oui. Et c'est même une œuvre que je ne pensais pas jouer, à vrai dire. C'était un concours de circonstances, une demande d'un organisateur, etc. Mais vraiment, je ne pensais pas jouer les variations Goldberg et les travailler. C'était pas une œuvre d'ailleurs qui m'appelait au sens certaines œuvres. Je me sens absolument vraiment presque acculé à les aborder, etc. Les variations Goldberg, ça me semblait un peu trop compliqué, un peu trop marqué aussi, effectivement, par l'empreinte de Gould qui les avait gravées en la version en 82, que j'avais écouté pas mal quand j'étais vraiment très jeune. Donc je me suis dit, bon, si c'est pour refaire la même chose, si j'ai pas une vision claire de ce que ça doit être pour moi, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de s'attaquer à ça? Et franchement, je pensais pas le faire. Vraiment, c'est quelque chose qui est venu, encore une fois, par une demande extérieure. C'est quelque chose qui m'a été, pas imposé, parce que j'ai réfléchi, ensuite j'ai accepté le défi. Mais c'est pas venu de moi au départ. C'est pas venu de moi du tout.
Vous avez évoqué les versions de Glenn Gould. Je rappelle qu'il y en a une de 1955 et une de 81-82. Est-ce que vous avez écouté d'autres versions des Goldberg par d'autres pianistes? Il y a par exemple celle de Murray Peria, où vous avez voulu arriver avec une espèce d'œil et d'oreille vierge pour l'approcher de façon très personnelle.
Non, je connais les autres versions que j'ai découvertes plus tard. J'ai découvert Rosalind Turek, j'ai découvert Wilhelm Kempf, qui est un de mes pianistes préférés. J'ai découvert une version de Claudio Arrau... Bon, des choses comme ça. Mais en général, quand j'aborde une nouvelle œuvre, ce que je fais, c'est que j'essaye de me détacher de ce que j'ai pu entendre de cette œuvre par d'autres musiciens et ne pas justement considérer ce qu'eux ont fait comme un postulat de base. Il faut vraiment essayer de revenir à la source de l'œuvre et de ce que le compositeur a écrit, même si les indications, dans le cas de Bach, sont rarement écrites. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'indication de nuance ou quoi. Mais enfin, en tout cas, il faut vraiment essayer d'arriver autant que possible, parce que je sais bien que c'est peut-être... sûrement impossible d'arriver à peu près vierge de toute influence et de tout passé ou passif par rapport à l'écoute et la considération qu'on a pour une œuvre. Et ça, ça demande beaucoup de travail. Évidemment, ce qui demande beaucoup de travail, c'est de faire son propre chemin dedans pour arriver à l'interprétation qui soit à peu près valable. Mais ce qui est difficile aussi, vraiment, c'est de partir d'un terrain vierge. Ça, c'est compliqué. Parce qu'en tant que musicien, on est forcément empli de souvenirs, de choses qui ont pu nous influencer, qu'on en soit conscient ou pas. Et parfois, c'est une des beautés de mon métier, je trouve, c'est de revenir au texte et de parfois se rendre compte que les options qui sont reproduites de génération en génération pour une interprétation sont pas forcément obligatoires ou induites par la musique elle-même. Et donc, du coup, de se dire que finalement, la marge de liberté sur une interprétation musicale est sûrement plus importante que ce qu'on s'imaginait. Et sans avoir besoin de trahir le texte, bien au contraire.
Vous les avez donc enregistrés en 2021 dans votre Bigorre natale à la chapelle de Barbazan de Batte, un endroit qui vous tient à cœur. C'était important de les enregistrer dans un lieu propice au recueillement ?
Oui, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est à la fois pour des questions vraiment techniques, hein, d'acoustique, c'est-à-dire que moi je n'ai jamais aimé la sécheresse en musique et encore moins pour Bach, même si c'est un compositeur qui a parfois été servi d'une manière un peu aride ou un peu mécanique, comme je vous disais aussi. Donc c'est vraiment la première des choses, c'est ça. Mais effectivement aussi, peut-être de remettre cette musique-là au sein de l'atmosphère dans laquelle elle a été peut-être pensée ou créée. Effectivement, ça me paraissait aussi quelque chose d'important. Quand vous faites un disque, vous êtes un peu dans une bulle et tout ce qui vous entoure peut être mis à profit pour nourrir votre interprétation, pour faire en sorte que vous soyez le plus disponible et inspiré possible sur le moment, pendant les quelques jours que dure l'enregistrement. Et effectivement, ce type d'endroit, moi, m'apaise, m'inspire, me stimule aussi, et puis m'apporte aussi une réponse acoustique, comme je disais, qui me semble importante pour ce répertoire. Alors moi je l'ai vraiment enregistré dans une toute petite chapelle de campagne. C'est un lieu qui est très intimiste et assez petit, hein. Une basilique, comme celle de Rocamadour, j'imagine que ce sera un endroit avec des dimensions assez différentes, et peut-être de ce fait-là aussi une intimité ou une atmosphère quand même aussi différente de celle de ma petite chapelle de mon village.
Et d'autant plus qu'il va y avoir 400 personnes autour de vous. Nous allons maintenant vous écouter jouer un extrait des variations Goldberg dans la version que vous avez enregistrée à la chapelle de Barbazan de Batte, un CD paru sous le label Erato, c'est le fameux aria du tout début. Thank you. L'aria des variations Goldberg, joué par David Frey, un extrait du CD enregistré en 2021, paru sous le label Erato. Vous disiez que ce n'était pas du tout dans vos projets, à la base, d'enregistrer un jour les variations Goldberg. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous n'enregistrerez jamais les autres grandes œuvres pour clavier seul de Bach? Je pense, entre autres, au clavier bien tempéré.
Jamais, c'est un mot que j'emploie...
Jamais.
Très rarement. Je ne voulais pas le réutiliser. Non, parce que je vois trop à quel point on peut évoluer, changer, pour dire quelque chose de définitif. Mais non, évidemment, il y a beaucoup d'œuvres de Bach que j'aurais peut-être envie de jouer ou d'aborder, mais il faut que ce soit le bon moment, il faut que ce soit prêt. Et pour un compositeur comme Bach, on ne peut pas s'engager à la légère. Donc, ce dont vous parlez, le clavier bien tempéré, effectivement, c'est un massif absolument merveilleux, mais ça prendrait énormément de temps. Donc il faut que j'arrive à trouver ce temps-là aussi, vous voyez. C'est parfois simplement des considérations un peu logistiques aussi.
Oui, parce qu'effectivement, vous êtes un homme très occupé. Et avant de terminer cet entretien, cher David Frey, il faut que l'on parle d'un projet qui me semble avoir autant d'importance pour vous, votre carrière de pianiste. C'est le festival L'Offrande Musicale. On en a un tout petit peu parlé il y a quelques minutes. Vous l'avez fondé chez vous, à Tarbes, Lourdes et aux alentours. La 4e édition a eu lieu il y a quelques semaines. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette manifestation, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots ce que sont sa vocation et l'esprit que vous avez voulu donner à sa programmation?
Alors, l'offrande musicale, c'est une aventure à la fois très personnelle et collective, puisque je ne porte pas seul une telle chose, ça c'est sûr, mais c'est vrai que c'est parti de mon désir de créer quelque chose d'une très grande qualité artistique dans mon département de naissance, qui est mon département aussi de vie, dans lequel j'habite depuis quelques années de nouveau, et qui soit dédié à la cause du handicap, qui est un sujet qui me touche pour des raisons personnelles et qui, à ma connaissance, n'avait pas vraiment voix au chapitre dans les festivals de musique classique jusqu'à présent. En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples ailleurs d'un festival avec une programmation de ce niveau-là et qui soit vraiment dédié à cette cause. Donc voilà, pour des raisons qui tenaient à ma vie personnelle, et j'ai voulu associer ces choses-là ensemble. Et on a fait la 4e édition cette année. La préoccupation pour le handicap, elle se manifeste par des choses assez concrètes. Le fait que 20% des places soient gracieusement offertes à des personnes en situation de handicap, le fait que certaines répétitions générales soient également ouvertes pour ces personnes-là qui ne pourraient pas venir pendant 2 heures assister à un concert assises comme ça au milieu d'une foule. Et puis il y a aussi des captations qui sont retransmises dans certaines institutions. Il y a eu une journée cette année qui était consacrée à l'art et au handicap, avec des artistes concernés par le sujet, avec un grand généticien français qui est venu, etc. Donc ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui irrigue à peu près toutes les strates de cette manifestation. C'est un festival encore jeune, je vous dis, on a fait la 4e édition cette année, mais qui s'est déjà bien développé, et ça me donne aussi beaucoup de travail, il y a beaucoup de problèmes à gérer aussi, mais ça me donne aussi pas mal de satisfaction, et c'est assez gratifiant de voir que les gens auxquels on s'adresse en priorité sont heureux que ce festival existe.
Merci infiniment, David Frey. C'est toujours un plaisir de s'entretenir avec vous.
Merci à vous.
Je rappelle que vous donnez les célèbres variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach en récital ce vendredi 23 août à 21h à la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour. Il reste peut-être quelques places. J'invite donc nos auditeurs à se connecter au site www.rocamadourfestival.com pour acheter et réserver leurs billets en ligne. Rendez-vous demain sur Radio Présence à 13h30 pour un autre entretien avec l'un des musiciens programmés lors de ce festival 2024. Merci de votre fidélité à notre écoute et très bon après-midi à tous.